Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il va falloir vous y faire à cette ambiance mortifère dans les stades de foot les soirs de match, des stades qui sonnent creux, même en y ajoutant une bande-son façon FIFA. Mais pour la Ligue de football française, les stades vides sont loin d'être le seul problème. Elle en a un plus gros encore, qui s'appelle Mediapro. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur le rêve du foot français, un rêve qui est en train de virer au cauchemar.
Les clubs de Ligue 1 se frottent les mains, ils ont touché le jackpot.
La Ligue 1 vaut désormais 1,1 milliard d'euros par an, c'est un record en hausse
plus
de
4 milliards sur 4 ans.
En hausse de 60%.
Ouais.
Le jackpot, 1 milliard 153 millions d'euros, quasiment deux fois plus que pour la période 2012-2016. C'est ce que les clubs de football professionnels devaient toucher en France à partir de cette année et jusqu'en 2024. De quoi faire réagir Jean-Jacques Bourdin sur RMC en 2018. Il y a deux ans, Mediapro avait déboulé dans le foot français tel un chien dans un jeu de quilles, faisant valdinguer Canal+ et beIN Sport, qui n'avait récolté que les miettes. Le contrat du siècle devait faire entrer la LFP et les clubs dans une nouvelle dimension. Mais qui est ce Mediapro ? Qui est son patron, Jaume Roures, qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière ?
Mediapro, c'est un grand groupe espagnol, connu avant tout pour ses activités dans le sport, et peut-être moins pour ses activités de production, mais pourtant qu'elles sont très importantes.
Marina Alcaraz est journaliste au service high-tech média des Échos.
En fait, Mediapro, ça a été un groupe quasiment inconnu du grand public en 2018, jusqu'au printemps 2018, où Mediapro fait une entrée fracassante en France en ravissant les principaux droits de la Ligue 1 au nez et à la barbe de Canal+. C'est un groupe détenu par des Chinois, avec un patron à la réputation de cow-boy, un patron qui s'est dit trotskiste, lui-même fervent défenseur du droit à l'autodétermination de la Catalogne. Bref, un groupe qui a, dès 2018, commencé à voler le pacte à l'époque. Créé en 1994, le groupe catalan est un acteur de poids en Espagne, et qui est également présent dans plus d'une trentaine de pays sur les quatre continents. Mediapro assure la production technique de nombreuses chaînes dans le monde. Et le groupe avait un pied en France avant même d'arriver sur les droits de la Ligue 1, puisqu'il assurait des prestations techniques pour beIN Sport. Mediapro, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 224 millions d'EBITDA, qu'on pourrait traduire ici par résultat opérationnel, c'est quand même quelques 7000 collaborateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un groupe qui a pour actionnaire le fonds chinois Oriental Capital depuis début 2018. C'est dans le sport que Mediapro est le plus connu. Le groupe est aussi un acteur important du paysage audiovisuel espagnol et même européen. Et le groupe a coutume de dire, en fait, le point commun entre nos différentes activités, c'est que l'on raconte des histoires. Ils ont un grand bâtiment à Barcelone, que j'avais eu l'occasion de visiter, où il y a un petit musée pour rappeler la diversité des activités. Par exemple, on y voit des images de courses dromadaires filmées par des équipes de Mediapro. Des courses de dromadaires paraît-il très populaires dans les pays du Golfe. Des photos de guerre aussi, où Mediapro envoie des équipes. Et même les lunettes cassées de Woody Allen sont exposées, puisque le groupe a assuré la production de plusieurs films du réalisateur, comme Midnight in Paris ou Vicky Cristina Barcelona.
Mediapro a aussi travaillé en Espagne sur des séries comme The Young Pop ou pour des documentaires sur le sport pour Amazon Prime Video. Mais ce n'est pas son cœur de métier, comme le rappelle Marina.
Ce sont les services audiovisuels qui constituent son métier historique. Mediapro loue des cartes régies, assure la transmission d'événements sportifs, la location de matériel, la création de studios, etc. Par exemple, bien avant que Mediapro soit connu en France, c'est Mediapro qui avait monté le studio de télé de France Info, la chaîne de service public qu'elle a lancée en 2016. Et au-delà de son expertise dans l'audiovisuel, Mediapro a des activités de conception dans l'urbanisme, ou alors de conception et d'organisation de lieux culturels et de musées. Par exemple, ils avaient une exposition de réalité virtuelle sur le réchauffement climatique des eaux de Barcelone vraiment bluffantes, dont on fait également le musée du Barça.
Le musée du Barça, qui est un autre lieu étonnant à Barcelone, ça vaut la visite, sauf à être allergique au foot, bien sûr. Alors Christophe Palliers n'y est pas allergique, ça tombe bien, c'est le spécialiste de l'économie du sport aux Échos. Christophe, Mediapro, on le disait, a fait une entrée fracassante en France. Il a surtout été accueilli comme le Messi par le foot français en 2018.
Si je peux me permettre une autre analogie sportive, footballistique, au fond, Mediapro, c'est un peu le ballon d'or dans une tendance longue d'inflation des droits TV qu'il faut rappeler, hein, puisque on avait bien vu que contrat après contrat, des droits télé montaient. Et là, ce qui s'est passé en 2018, c'est que le chiffre est symbolique. Globalement, on a quand même dépassé le milliard d'euros pour une saison, sachant que l'essentiel était porté par Mediapro, puisque globalement, Mediapro s'engage autour de 820 millions pour une saison, à raison de quelques 780 millions pour les principaux droits de la Ligue 1, et s'ajoute la trentaine de millions pour la Ligue 2. Donc, effectivement, c'était sans précédent et ce milliard a de quoi esbobir. Enfin, c'est sûr que c'était la nouvelle de la décennie, quelque part.
Et ça a pas mal fait fantasmer, en tout cas, ça faisait fantasmer les propriétaires des clubs français. Car Christophe, finalement, les droits du foot, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui les clubs français ?
Disons que oui, alors globalement, c'est tout à fait juste. Et on voit bien au fil du temps que plus ces droits augmentent, plus cette espèce de télédépendance, au fond, s'accroît pour une grande partie des clubs, parce que derrière, en parallèle, quand bien même ça se développe, les recettes de billetterie ou de merchandising ne sont pas à la hauteur de tels montants. Enfin, si on reprend le chiffre qu'on évoquait tout à l'heure, Mediapro, c'est plus de 800 millions sur une saison. Donc, effectivement, cette télédépendance s'accroît. Si on prend la saison 2018-2019, qui est une bonne base d'analyse, puisque on est sur un championnat qui s'est déroulé normalement, les droits sur la seule Ligue 1, ça représentait globalement 31% des recettes des clubs hors transfert. Et ce tiers, il est encore, en fait, plus important, si je puis dire, pour les clubs de second rang ou considérés comme petits, parce que ces clubs-là n'ont pas les droits très lucratifs de la Ligue des Champions, contrairement à la Ligue 1, ou davantage de billetterie, parce que des stades un peu plus petits. Et si on prend des exemples toujours sur cette saison 2018-2019, ben ces droits télé domestiques, si on ajoute la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, alors c'est plus de 60% des revenus pour des clubs comme Dijon, Reims, Caen ou Angers. Et en Ligue 2, c'est pareil, pour la même saison, pour le Clermont Foot 63, les droits télé domestiques, c'était 67% des recettes hors transfert. Donc, il y a une télédépendance, surtout pour les clubs de second rang. Et cette télédépendance, en fait, elle ne fait que s'accroître dans le système actuel, dans le contexte actuel. Pourquoi ? Si on prend cette saison à l'instant T, il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de recettes dites hospitalité, l'accueil des VIP, parce que les matchs sont à huis clos. Donc, toutes ces recettes-là s'effondrent. Et donc, les droits télé, qui ont augmenté, sont encore bien plus importants. Et l'Observatoire du sport business s'est livré à l'exercice de l'estimation. Et en partant du principe que le contrat Mediapro est honoré, ça pourrait représenter 70% des recettes des clubs de Ligue 1 contre 47% toujours sur cette saison 2018-2019 si on prend les autres recettes de télé, donc celles de Coupe d'Europe. Donc on voit bien que cette télédépendance, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui.
Et c'est vrai que cette télédépendance, elle risque un peu de disparaître avec notamment les mauvaises performances des clubs français en Ligue des Champions. Hein. Ce sera des recettes en moins cette année. Un autre souci qui les attend aussi.
C'est une très bonne observation, Pierrick, parce qu'effectivement, le début des clubs français présents en Ligue des Champions, c'est triste, mais ils sont catastrophiques. Et ça veut dire qu'effectivement, derrière, il y a des dizaines de millions d'euros qui risque de s'évaporer. Et donc, ce lien avec Mediapro, il est encore plus fort, c'est clair.
Ce milliard par an devait permettre aussi à la France de rejouer dans la cour des grands et de cesser finalement de perdre chaque année ses meilleurs joueurs ?
C'était effectivement ce scénario optimiste, ce scénario d'une locomotive qui a encore plus de charbon et qui va pouvoir accélérer. Et donc, c'était la Ligue 1 forcément plus attractive, qui peut investir dans ces structures. Et d'ailleurs, l'effort d'investissement, il avait commencé avant même que tombe la fameuse manne, puisque le président du syndicat de clubs de Ligue 1 Première Ligue, Bernard Caillazo, qui est par ailleurs président du conseil de surveillance de Saint-Étienne, avait souligné il y a quelque temps que la hausse des droits TV avait été déjà intégrée dans les clubs avant Covid. Donc l'effet, il avait eu lieu déjà avant cette saison. Et c'est peut-être l'un des sujets aussi, c'est que on a peut-être consommé quelques noisettes trop tôt.
Surveille les noisettes, l'écureuil ne dort que d'un œil. Gare à vous les chapardeurs.
Touche pas à mes noisettes, 1 milliard 153 millions d'euros par an, de quoi voir grand et peut-être de quoi cesser de perdre de l'argent chaque année. Las, le rêve est en train de se briser et la montagne d'or promise par Mediapro risque de s'affaisser. Le 7 octobre, une information tombe sur les téléscripteurs, pardon, sur les sites internet.
Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est Mediapro qui n'a plus de thunes.
Mediapro n'a plus d'argent, en tout cas, il n'a pas versé en octobre la somme de 172 millions d'euros sur les comptes de la Ligue.
Non,
il est où le pognon, putain? Il est où à la fin?
C'est plus possible. C'est plus possible.
Pourquoi Mediapro n'a-t-il pas réglé la traite du mois d'octobre? J'ai posé la question à Nicolas Madeleine du service high-tech média des Échos.
La question est intéressante parce que la société n'a jamais prévu de financer ses premières traites avec ses revenus. Elle a toujours dit que ce serait une montée en puissance assez lente pour aller jusqu'aux 3,5 millions d'abonnés. Alors, lorsqu'on lui a posé la question à la dernière conférence de presse, Jaume Rouès a dit qu'il avait trois sources pour financer ses premières traites, qui étaient les abonnements, les minimums garantis que lui auraient octroyé les opérateurs télécoms, les distributeurs de la chaîne Téléfoot, et enfin les emprunts qu'il contractait avec le secteur privé. Donc trois sources qui sont probablement toutes assez décevantes. On n'a pas vraiment d'infos, les contrats sont secrets avec les opérateurs télécoms, mais on peut soupçonner que les minimums garantis sont très bas. Il a par ailleurs évoqué des discussions avec des prêteurs privés. Bon, on n'en sait pas plus. Et quant à la caution de l'actionnaire qui aurait pu être actionnée, elle n'est pas très claire. Vous savez que Mediapro est détenu à 54% par un actionnaire chinois. En fait, on ne connaît pas bien la nature de la caution.
On a bien compris que le modèle économique de Mediapro pose question. Un modèle qui passe notamment par l'endettement. Or, selon l'agence de notation américaine Moody's, qui est très suivi par les investisseurs, le Catalan ne disposait fin septembre que de 113 millions d'euros de trésorerie sur ses comptes, moins que les 172 millions d'euros dus à la Ligue de football. Marina, c'est aussi et surtout une question d'argent.
Alors, le groupe espagnol, qui avait acquis, rappelons-le, les droits de la Ligue 1 au nez à la barbe de Canal+ en 2018, veut renégocier le tarif à la baisse pour la Ligue 1, qui est de 780 millions d'euros annuels environ, et pour la Ligue 2, 34 millions d'euros. En fait, l'idée, c'est que, vu qu'il y a une crise sanitaire difficile, Mediapro subit une situation difficile. Ils sont justifiés à l'équipe en disant « La Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid. On est dans cette même dynamique », a expliqué le patron du groupe espagnol dans cette interview à l'équipe, sans vouloir pour autant remettre en cause le contrat avec la LFP. Mediapro a donc demandé un peu de temps pour régler l'échéance de 172 millions d'euros qui devait fixer le 6 octobre, invoquant la crise sanitaire. Il s'agissait de sa deuxième échéance, après celle de début août, avant celle de décembre. Et celle de début août avait été payée avec un tout petit peu de retard. Pour l'instant, la LFP a refusé pour éviter d'entrer dans une négociation et pour éviter de donner un mauvais exemple aux autres chaînes de télévision. Depuis, tout s'est enchaîné. Et dernière actualité en date, une procédure de conciliation entre Mediapro et la LFP.
Nicolas, je crois que vous voulez ajouter quelque chose.
Il arrive dans une procédure de conciliation qui lui achète du temps. Il est dans la place. Apparemment, la Ligue a été forcée d'entrer en conciliation en raison des mesures Covid, peut-être pour 4-5 mois. Et il a du temps pour faire plier. Et puis, ce qui se passe en ce moment avec le reconfinement peut peut-être l'aider dans ses desseins.
Oui, c'est vrai que ça peut jouer là aussi, étant donné que
les conséquences économiques seront importantes. Et puis surtout que, à la différence peut-être du mois de mars-avril, eh bien, les matchs en revanche continuent de se tenir. Vous parliez de trois sources de financement, Nicolas. Parmi ces sources, il y a la chaîne Téléfoot. Ça veut dire aussi que Mediapro n'est pas parvenu pour l'instant à attirer suffisamment de public sur cette chaîne Téléfoot?
Alors, ils revendiquent 600 000 abonnés. Ils disent que beaucoup sont au prix fort, hein, c'est-à-dire les 25,90 avec engagement 12 mois et puis 30 euros sans engagement. Et donc, dans ces 600 000, il y aurait une grande partie qui viendrait de l'offre groupée avec Netflix. Donc, c'est pour 30 euros, on a Mediapro et puis une des offres d'entrée de Netflix. Donc, 600 000, c'est vraiment pas énorme par rapport au prix payé. Leur objectif, c'est d'atteindre 3,5 millions. Donc, c'est un chiffre qui est clairement un peu en dessous de ce qu'ils espéraient au mieux de leurs attentes. Cela dit, les gens doutent même de l'objectif de 3,5 millions. Les experts du secteur disent que en France, il y a 1,5 à 2 millions de fans de foot qui vont principalement voir les grosses affiches. Apparemment, selon des données qui auraient été calculées par des opérateurs télécoms, en gros, il y aurait 300 000 fans. Ça fait 30 000 par stade le week-end pour la Ligue 1. Donc, des fans qui sont prêts à acheter des abonnements pour suivre leur club. Donc, ça va être dur de toute façon. Donc, 600 000, c'est déjà pas énorme. C'est moins sans doute qu'attendu. Et en plus, arriver aux 3,5 millions, ce sera dur pour financer les traites au football français avec les abonnements.
Pourtant, Nicolas, la diffusion des matchs à huis clos pouvait représenter une opportunité pour attirer les téléspectateurs.
C'est clair que quand on ne peut pas aller au match, hein, le seul moyen qu'on a de suivre son club favori, c'est d'acheter la chaîne Téléfoot. Et que pour 14 euros sur une tablette, on peut s'offrir les matchs. Donc, on aurait pu espérer que ça soutienne les abonnements. Cela dit, le championnat français, il est déjà trop dominé par une seule équipe, le PSG qui est déjà en tête. Beaucoup disent qu'il y a déjà presque plus de suspense. Donc c'est un championnat peut-être un peu fragile du point de vue de l'appétit qu'il peut susciter auprès des fans de football. Et puis en plus, ce que tout le monde dit et ce que nous disait Maxime Sada dans une récente interview, c'est qu'il y a une explosion du piratage qui est passé à la trappe cette année avec la réforme de la loi audiovisuelle et qui, avec la multiplication des sources pour visionner le football, s'accroît énormément. Et puis, côté Mediapro, et c'est l'argument qu'ils avancent pour renégocier le prix à la baisse, il ne fait pas de doute que la crise sanitaire affecte le championnat, fait chuter les audiences, fait partir les sponsors, il y a des joueurs qui tombent malades, les bars sont fermés. Donc, le fait que le seul moyen de voir les matchs soient sur Téléfoot n'est pas entièrement gagnant quand même. Il y a un contexte qui est un peu difficile, enfin qui est très difficile en réalité.
On a parlé hein, de ces difficultés de Mediapro, notamment pour attirer le public sur la chaîne Téléfoot avec Nicolas. Mais est-ce que ces difficultés financières rencontrées aujourd'hui par Mediapro, est-ce que c'était prévisible, Marina?
Alors, Mediapro, c'est un groupe qui avait déjà connu des difficultés dans le passé. Hein. Par exemple, en Italie, le groupe avait connu un vrai revirement de situation. Il avait gagné un appel d'offres en 2018-2019 pour la Série A. Et au terme d'une action en justice menée par son rival malheureux Sky, la Ligue italienne a demandé des garanties supplémentaires. Or, celle aussi devait être apportée par son actionnaire chinois, donc Orient Hontai Capital, qui était en trou capital, je le rappelle, en 2018. Et les garanties n'étaient pas encore bouclées à cette époque et le deal avait capoté. Si on remonte un peu plus loin, en 2010, le groupe avait placé volontairement une filiale de Mediapro donc sous le régime des faillites de mi-2010 jusqu'à fin 2011, au plus fort de ce qu'on avait appelé la guerre du foot en Espagne, qu'il avait mené à cette époque plusieurs fois devant les tribunaux contre son compatriote Prisa. Et ces derniers mois, il y a eu plusieurs alertes. Au printemps, les agences de notation ont abaissé leur notation sur Joy Media, qui est la maison mère de Mediapro. S&P a procédé à deux abaissements de notation, en avril et juin, pour la descendre à B-. Moody's avait également abaissé sa notation.
Une précision sur les agences de notation qui ont un rôle important puisqu'elles sont chargées d'évaluer la solidité financière d'une entreprise et in fine sa capacité à rembourser ses créanciers. Cela aurait pu alerter la LFP sur les difficultés de Mediapro et de ce point de vue, on était loin d'en avoir vu le bout, avec un nouveau coup de semonce le 22 octobre, puisque les deux principales agences de notation, les arbitres de la dette, ont de nouveau dégradé Mediapro. La décision n'est pas surprenante en soi, le groupe n'ayant pas versé son dû à la LFP. Cela a sans doute influé sur la décision des agences, mais leurs commentaires, Marina, sont assez inquiétants pour l'avenir du groupe espagnol.
En gros, l'aptitude à faire face aux engagements est compliquée. S&P s'attend à de faibles revenus, à une faible génération de cash flow. On s'inquiète de la liquidité de Mediapro. On s'inquiète également de la capacité du groupe à rembourser ses dettes, qui est un réel problème dans la mesure où S&P, par exemple, s'attend à un ratio dette nette ajusté sur EBITDA de 10 en 2020, ce qui est très élevé.
Ce ratio technique est important parce qu'il mesure la capacité de remboursement du groupe en fonction de l'argent généré par son activité et notamment par ce que va rapporter sa chaîne de télé Téléfoot. Nicolas, il y a un autre acteur important dans le foot, c'est Canal+, qui diffuse quelques matchs de la Ligue 1. Le groupe regarde la situation avec attention.
Oui, ils diffusent beaucoup de matchs quand même. Ils ont une grosse partie des belles affiches, mais c'est plus que ça. Ils font plus que regarder la situation avec attention. Canal+, c'est le partenaire historique du football français. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que les clubs font clairement des appels du pied pour que Canal+, les tire de cette mauvaise passe. Parce que de la part des dirigeants de club, il y a vraiment une grosse crainte en ce moment de dévalorisation de l'actif Ligue 1. Et ce que nous disait un dirigeant de club récemment, c'est que si Canal+, avec beIN, puisqu'ils sont très liés maintenant, faisait une offre à la LFP, enfin réussissait à faire une offre à la LFP qui soit satisfaisante, ils auraient vraiment les cartes en main pour récupérer la diffusion de ce championnat. Mais on n'en est pas là. En tout cas, la première réaction de Canal+, ça a été dans l'équipe de dire si jamais la Ligue autorise un rabais à Mediapro, on en demande aussi. La deuxième carte dans les mains de Canal+, c'est qu'il y a quand même eu un appel d'offres en 2018 et la perspective qu'il ne soit pas honoré, Canal+, peut la contester en justice et donc faire une grosse pression sur la Ligue. Pour les dirigeants de Canal+, la situation de Téléfoot n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Ils disent les matchs se jouent en temps, en heure. Donc, il y a cette possibilité d'action en justice qui est une sorte de menace qui pèse.
Il n'y a rien qu'un pied ne puisse faire. Mais de toutes les prouesses dont est capable le pied, la plus grande de toutes, c'est le football. Profitez du meilleur du football avec Téléfoot, la chaîne du foot.
Christophe, on vient d'entendre la publicité pédestre de Téléfoot, la chaîne de Mediapro. Pour les clubs français, en revanche, c'est pas le pied. Que peut faire la Ligue 1 et son nouveau président ?
On l'a vu à court terme, la Ligue, elle a dû parer au plus pressé parce qu'il y avait ces fameuses échéances de début octobre qui n'étaient pas honorées. Et donc, la première décision, ça a été de souscrire à près d'une centaine de millions pour parer ce manque de recettes de droits de télé à l'instant T. Et puis, au-delà de ça, c'est une négociation à plusieurs centaines de millions d'euros qui est désormais engagée, sachant que Mediapro a bien précisé vouloir renégocier que le contrat de la saison en cours. Mais il y en a quand même, on l'a dit tout à l'heure, pour plus de 800 millions. Donc la question du moment, c'est où se place le curseur et avec qui ? On a vu que la Ligue a essayé de voir auprès des sociétés mères de Mediapro en France, donc la maison mère espagnole et puis sa maison mère chinoise, un fonds d'investissement qui s'appelle Oriental Capital. Manifestement, il n'y avait pas eu de suite particulière. Mais bon, je reste prudent hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de confidentialité dans toutes ces discussions. Et puis, on peut imaginer aussi que la Ligue réfléchit à une alternative en cas de non-accord avec Mediapro. Et on a beaucoup parlé de l'éventuel retour de Canal+, qui avait récupéré des droits avec beIN Sport, mais qui est le diffuseur historique de la Ligue et qui avait été conduit lors du dernier appel d'offres.
Oui, ça c'est intéressant, effectivement. On se demande si la Ligue n'a pas intérêt à remettre en cause le contrat Mediapro pour se tourner vers Canal+. Nicolas Madeleine, Canal pourrait se laisser tenter ?
La troisième carte que joue Canal+, c'est de dire que, enfin, ils sont pas dans une situation désespérée de récupérer ces droits. Donc, ce que dit la direction de Canal+, c'est qu'ils ont pas perdu d'abonnés, qu'ils ont redépensé l'argent ailleurs en achetant la Coupe d'Europe, en faisant ce partenariat avec Disney+. Et puis aussi, ils disent qu'ils ont d'autres sports qui marchent très bien. Les scores d'audience de la Ligue 1 le week-end dernier, avec les matchs Nantes-PSG et Monaco-Bordeaux, ont fait la moitié en audience du Grand Prix de Formule 1, qui a fait plus d'un million. Du coup, la Ligue se retrouve dans une situation vraiment infernale. Accorder un rabais à quelqu'un en qui il est difficile de faire confiance pour l'avenir, et ouvrir un appel d'offres avec quelqu'un, Canal+, qui considère que le football français vaut 600 millions d'euros au lieu de 1,2 milliard et qui dit qu'il n'est pas dans une situation désespérée pour récupérer les droits. Donc, c'est vraiment dur. Pour la Ligue, il faudrait avoir le temps de préparer des nouveaux lots, de contacter des nouveaux acheteurs pour faire un appel d'offres. Et la situation de trésorerie des clubs est urgentissime. Alors, il y a quand même une réserve à ce raisonnement, c'est que le modèle de Canal+, c'est un modèle généraliste de sport et de fiction avec le cinéma et les séries. Pour l'instant, ils considèrent que c'est un modèle qui les met à l'abri, que les deux volets n'ont pas les mêmes cycles, donc ça s'équilibre. Donc, ils peuvent pas faire n'importe quoi avec le football français qui est quand même l'actif sportif le plus beau, celui qui attire le plus d'abonnés en France.
Christophe, je reviens vers vous. Quel est le sentiment aujourd'hui des clubs français ?
D'abord, ça a été un coup de massue parce que, évidemment, c'est intervenu, le championnat venait juste de commencer. Tout le monde a été pris de court. En plus, le championnat avait commencé et le mercato de l'été avait été très médiocre. Donc, c'est le pire des timings. Et donc, ce coup de massue, ça a été aussi, par ailleurs, une espèce de sentiment de trahison parce qu'au fond, pourquoi maintenant et pas il y a 15 jours, 3 semaines avant le commencement du championnat ? Donc tout le monde a été pris de court, tout le monde était furieux, tout le monde s'est senti trahi. Évidemment, la précédente direction de la Ligue de football professionnelle qui avait négocié le contrat a été vilipendée. D'un autre côté, tout le monde était aux anges quand la Ligue avait fait affaire avec Mediapro et les décisions de la Ligue sont quand même des décisions collectives. C'est pas le directeur général à l'époque, Didier Quillot, qui décide tout seul dans son coin. Donc il y avait aussi ce sentiment-là, c'est que on n'avait peut-être pas misé sur le bon cheval. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et Pierre-Yves, vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, pour ne pas dire un certain pessimisme. Le patron de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, déclaré il y a quelques jours à l'AFP, ne pas croire à un accord avec Mediapro, et il pronostiquait même, et là je le cite, une procédure probablement judiciaire ou autre. Donc beaucoup d'inquiétudes et le pessimisme est là. Après, rien n'est fait. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de confidentialité autour de toutes ces discussions, donc restons prudents, mais vigilants.
Difficile, effectivement, d'avoir une idée de l'issue, hein, de ce que donneront les négociations en cours entre les groupes et la médiation qui a été engagée et qui pourrait durer plusieurs semaines. On peut faire quand même un constat, c'est que les droits du foot ne peuvent plus que baisser en France. La LFP ne reverra pas son milliard de sitôt.
C'est probable, Thierry, pour plusieurs raisons. D'une part, Mediapro veut continuer, mais en payant moins sur cette saison. Canal+, qui est une alternative, a dit très clairement qu'il était hors de question d'investir à perte dans le football français. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir une espèce de, à minima, de stagnation, voire légère baisse. C'est la problématique de l'offre et la demande. Le contexte économique a beaucoup changé. On voit pas trop l'issue de cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique et sociale qui affecte très très fortement le football français aujourd'hui. Après, il est sûr que il y a des diffuseurs qui sont très très puissants puisqu'on parle beaucoup de l'arrivée des GAFA dans l'audiovisuel. Après, il y a des logiques d'entreprise, des stratégies industrielles. On voit bien qu'un Netflix qui s'est intéressé au sport est quand même très tourné sur les séries et le cinéma. Amazon, qui a regardé le sport, fait plein d'autres choses par ailleurs. Donc, les fameux GAFA ne sont peut-être pas forcément l'alternative très lucrative dont on a parlé. Après, il faut voir les montants de valorisation derrière. le modèle très classique de la télé payante était extrêmement rémunérateur. Peut-être que ce modèle aujourd'hui est un peu, peut-être pas obsolète, mais en tout cas, il n'a plus la vigueur qu'il a pu avoir à une certaine époque où on avait une vraie exclusivité. Donc il y a peut-être une espèce de plafond qui est atteint aujourd'hui.
Moins de télé, peu de public dans les stades, l'hiver arrive pour le foot français et pour la Ligue qui s'était déjà endettée avec un prêt garanti de l'État de 225 millions d'euros pour aider les clubs à faire face aux pertes engendrées par l'arrêt brutal du championnat en mars dernier.
Allez, courage mes enfants, je vous couvre.
Merci Nicolas Madeleine et Marina Alcaraz du service Média des Échos. Merci Christophe Palier, ce spécialiste de l'économie du sport au service entreprise. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je voulais aussi vous signaler un article dans les Échos en page région d'Emmanuel Guimard sur les autres perdants de l'arrivée de Mediapro, les deux prestataires historiques qui filmaient les matchs pour la télévision depuis des quarts régies près des stades et qui ont vu leur part de marché passer de 80% à 20%. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.